Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Du grain à moudre d'été. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le mois d'août. L'émission est préparée par Céline Leclerc, Mathilde Barbier, Élodie Cousin et Nathan Marono. Réalisée par Lise Combe, accompagnée ce soir de Vincent René. Il est des repentances solitaires dans l'intimité de sa propre conscience, ainsi du repentir de Saint-Pierre, thème souvent traité en peinture à la fin du XVIIe siècle. L'apôtre seul, les mains jointes, les yeux au ciel, repenti de sa trahison du Christ. Il est des repentances plus affichées, plus partagées, ainsi de cette longue marche entamée par Jérôme Kerviel après son audience chez le pape François. Une marche sous les micros et devant les caméras. Alors d'un point de vue pictural, Jérôme Kerviel se situe un peu plus tôt sur la frise. « Ma renaissance italienne », écrira-t-il dans les colonnes de Nice ce matin, expliquant combien cette marche l'avait purifié, changé, métamorphosé. Bref, rappel des faits, tout de même, avant que le coq ne chante, Jérôme Kerviel avait misé trois fois. 30 milliards à deux reprises en 2007, 50 milliards en 2008. Ce coup-là sera de trop, d'un seul coup, d'un seul clic. Le trader fait s'envoler quasiment 5 milliards d'euros. La Société Générale s'érige alors en victime, trompée par un trader fou. Jérôme Kerviel est condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, et à rembourser les 5 milliards d'euros. Pour ce qui est de l'amende, le dossier n'est pas clos. L'ancien trader, en revanche, est incarcéré à Fleury-Mérogis, le parquet, ayant fait appel vendredi de sa libération sous bracelet électronique. Bref, la Banque Rouge et Noire, institution vertueuse, bernée par un mauvais garçon, ou Jérôme Kerviel, bouc émissaire d'un système opaque et tentaculaire. Difficile de sortir d'un débat caricatural dans ce genre d'affaires. La banque, c'est vrai, n'a jamais présenté ses excuses ni partagé les torts. Mieux, en 2008, elle reçoit 1,7 milliard d'euros de la part de Christine Lagarde en compensation des pertes subies alors. Mais le vrai débat, celui de la responsabilisation des banques, de la moralisation de la finance, la figure de Jérôme Kerviel l'a-t-elle relancé ou l'a-t-elle fait oublier? Avait-on besoin de lui pour dénoncer le système financier? A-t-on tiré les leçons de cette affaire ou peut-elle se reproduire? Et que peuvent ceux qui soutiennent l'ancien trader aujourd'hui de plus en plus nombreux? De l'homme à abattre, Jérôme Kerviel est-il devenu l'homme à absoudre? Nous en débattons ce soir avec nos trois invités. Notre première invitée interviendra surtout en seconde partie de cette émission, mais présentons-la à séance tenante. Bonsoir Judith Assouli.
Bonsoir.
Vous êtes professeure en études financières affiliée à l'ESCP Europe, maître de conférences à Sciences Po, auteur de « Morale ou finance » publié au PUF en 2013, consultante en déontologie pour des établissements financiers. Est-ce que vous l'étiez déjà à l'époque, d'ailleurs en 2008, Judith Assouli?
En 2008, je m'installais en tant que consultante en déontologie financière.
Donc vous avez sans doute entendu le nom de Jérôme Kerviel à l'époque prononcé assez souvent dans les couloirs. Alors vous pouvez, Judith Assouli, intervenir à tout moment dès le début de cette émission, évidemment. Avec nous, nous débattrons surtout des leçons tirées au nom de l'affaire Jérôme Kerviel ou l'affaire Société Générale, hein, évidemment selon le point de vue duquel on se place. Car en parallèle de ce que la justice a décidé, existe encore un vrai débat sur le partage des responsabilités. C'est aussi l'objet de notre discussion de ce soir avec vous, Olivia Dufour. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et blogueuse. On peut vous lire, alors on a pu vous lire dans la tribune, on peut vous lire dans Option Finance, les petites affiches, aussi et surtout sur votre blog qui est très visité et très lu, La Plume d'Alyosha. Vous êtes vous-même une ancienne juriste, d'ailleurs, apprentie avocat. Tenez, est-ce que ça vous aurait intéressé si votre carrière d'avocate, si vous aviez persisté dans ce secteur, dans ce domaine, est-ce que ça vous aurait intéressé de défendre Jérôme Kerviel ou de défendre la Société Générale, de prendre part dans cette affaire?
Moi, je crois que c'est une affaire qui passionne absolument tous les juristes et tous les avocats d'affaires parisiens. D'ailleurs, je crois savoir que Jérôme Kerviel a rencontré la plupart des grands pénalistes de Paris pour assurer sa défense. Et je ne connais pas un avocat pénaliste des affaires qui n'ait pas fantasmé la défense de Jérôme Kerviel dans un prétoire.
Alors vous, en tout cas, vous l'avez suivi et beaucoup commenté sur votre blog. Avec vous en studio, Jean-Philippe Denis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences du management à l'université Paris-10-Nanterre et au centre de recherche en gestion de l'école polytechnique. Tiens, école polytechnique dont sont issus, je crois, la plupart des dirigeants ou anciens dirigeants de la Société Générale.
Oui.
Donc on pourrait penser, Jean-Philippe Denis, que dans cette affaire, si vous deviez prendre position, on vous penserait en tout cas aux côtés de la banque plutôt. Pas du tout. Voilà, vous avez signé une pétition pour défendre Jérôme Kerviel et vous avez participé à sa défense en appel. Vous êtes considéré comme un proche, quasiment. Est-ce que vous avez toujours été de son côté ?
Alors non, je n'ai pas toujours été de son côté. J'ai été amené à participer à la défense en appel au motif que je trouvais dans le jugement de première instance qu'il y avait une injustice flagrante. C'était l'absence de prise en compte des concepts des sciences du management pour essayer de comprendre le cas. Et je pense que c'est toujours le sujet, c'est-à-dire que le management, l'affaire Jérôme Kerviel, c'est l'affaire d'une faillite organisationnelle d'abord, et je ne vois pas comment on peut arbitrer des responsabilités dans un cas comme celui de Jérôme Kerviel, des dommages et intérêts. Vous avez évoqué une amende, c'est plus que dommages et intérêts qui sont en jeu, et à hauteur de 5 milliards évidemment. Je ne vois pas comment on peut traiter de cela sans le faire à la lumière des concepts du sciences du management. C'est ce qui m'a amené effectivement à participer, en tout cas à apporter une expertise managériale sur ce dossier.
Alors la relation entre un employé et sa direction sera évidemment un des thèmes de notre discussion. Pourquoi Jean-Philippe Demeny n'avez-vous pas fait partie de ce comité de soutien qui s'est monté autour de Jérôme Kerviel et qui a été créé à l'origine par des Bretons qui soutenaient un Breton ?
Oui, moi je ne suis pas un soutien de Jérôme Kerviel, je ne me suis jamais positionné comme soutien de Jérôme Kerviel. Je vous ai livré ma position, c'est-à-dire que je pense qu'il y a dans le débat public une absence de prise en compte des concepts de sciences du management. Et dans ce contexte-là, le seul soutien que j'ai apporté, c'est celui de mon expertise. J'ai signé une pétition, vous l'avez rappelé, c'était la pétition générale qui avait été lancée, ce qui était plutôt une pétition de colère vis-à-vis du jugement et du fait que le cas, pour l'instant, n'était pas suffisamment instruit.
Voilà, qu'est-ce qui motive en général Olivier Dufour, le soutien de ce comité, de tous ces membres, toutes ces personnalités de la vie civile qui soutiennent Jérôme Kerviel ? Est-ce que c'est par fascination ? Est-ce que c'est par compassion ? Est-ce que c'est par détestation des banques, de ce que vous avez pu observer ?
Je crois qu'il y a un petit peu de tout ça. C'est une affaire qui est exceptionnelle à tous les niveaux. Les montants sont exceptionnels. Je rappelle que Jérôme Kerviel détient encore le record de la perte de trading pour peu que l'on adhère aux conclusions de la justice, c'est-à-dire qu'il est l'auteur de ces pertes de trading. C'est une affaire qui est absolument exceptionnelle, donc qui a déclenché des passions, notamment parce qu'évidemment elle s'est produite au moment de la crise financière des subprimes, à un moment où dans un pays où on n'a déjà absolument aucune tendresse pour la finance, on est réputé nous Français comme connaissant extrêmement mal la finance et n'ayant pas un grand intérêt pour elle. Évidemment, quand une crise financière survient, immédiatement ça déclenche un réflexe, un sentiment très fort contre les banques, parce que nous avons tous été débiteurs, nous avons tous été en conflit avec notre conseiller clientèle, et que quand s'ajoute à cela le fait que les journaux nous parlent de milliards partis en fumée, qu'on comprend que ça a des conséquences très concrètes parce que c'est des fermetures d'usines, forcément. Bon, donc Jérôme Kerviel, à ce moment-là, apparaît un petit peu comme une espèce de figure de proue d'on ne sait quoi qu'il incarne, justement, d'une espèce d'irritation contre les banques, qui va en faire une sorte de... À son insu, d'ailleurs, parce que lui-même dit « je ne suis pas un héros », il a repoussé ces images-là, mais on va quand même en faire une espèce de héros, de David contre Goliath, de bouc émissaire, de victime expiatoire. Il a un physique séduisant. Les gens se retrouvent aussi dans son côté salarié qui mène un combat contre son employeur. Enfin, il cristallise, et c'est ça qui est passionnant dans l'affaire, un nombre incroyable de mécanismes de l'inconscient collectif.
Alors, il y a la personnalité de Jérôme Kerviel, il y a aussi le contexte, disiez-vous, le contexte de crise dans lequel a été découvert ce scandale financier. Judith Assouli, je ne sais pas si vous êtes avec nous, vous êtes par téléphone. Judith Assouli, ce n'est pas la première fois, alors même si le montant, cette fois-ci, est un montant record, ce n'est pas la première fois qu'un scandale financier émerge en pleine crise. Et je pense notamment à l'affaire du Crédit Lyonnais milieu des années 90, 130 milliards de francs à l'époque de pertes. Là, à l'époque, la responsabilité des uns et des autres est quand même très diluée. On ne fait pas porter toute la responsabilité à une personne.
Non, mais dans cette affaire aussi du crédit donné, il y avait aussi une personnification autour de la personne de M. Abrère. Et en fait, ces deux affaires, c'est un parallèle intéressant que vous faites. On avait fait un article là-dessus avec un collègue sociologue, Damien Deblic, pour montrer que ces deux affaires montrent en fait les embarras que posent ces événements et ces scandales financiers du point de vue de la justice. Et l'une comme l'autre, même si elles sont très différentes dans leurs explications et dans leurs conséquences, illustre, je crois, le rapport des différents professionnels aux règles, que ce soit des règles déontologiques ou des règles plus fonctionnelles dans la finance. Et en fait, elles ouvrent un débat plus large sur la mise en application de ces règles dans les organisations et dans les établissements financiers.
Alors revenons d'abord sur la personnalité de Jérôme Kervel, ou plutôt l'évolution du personnage, de son image. On a l'impression aujourd'hui d'un gigantesque soutien de la part de l'opinion publique, des sondages qui disent que 67% des Français voudraient que François Hollande gracie Jérôme Kervel. Je ne sais pas si les termes juridiques sont exacts. En tout cas, vous, Olivia Dufour, comment est-ce que vous avez vu évoluer le discours? Comment est-ce qu'on est passé du voleur, du trader fou à la victime expiatoire, comme l'ont titré certains journaux?
Je crois qu'il faut faire attention parce qu'il y a d'une part l'image médiatique qu'on a pu coller autour du personnage qui est en grande partie fausse. La représentation, où il y a une construction qui n'est pas de son fait d'ailleurs, dont je pense qu'il l'utilise, mais ça n'est pas de son fait. Il est arrivé, comme je le disais, à un moment donné où on détestait la finance et il a cristallisé comme ça. Quelque chose, on en a fait un héros. Bon, il y a cette image-là, et je voudrais qu'on revienne un petit peu au fait, parce qu'on a un peu glissé sur la responsabilité, et puis il y a l'affaire judiciaire. Bon, l'affaire judiciaire, j'entends beaucoup dire, oui, il faudrait gracier Jérôme Kervel, oui, c'est un bouc émissaire, oui, on lui fait porter toute la responsabilité, oui, on lui impute la responsabilité de la crise financière mondiale de 2008. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça qui s'est passé devant le tribunal.
C'est parce que la justice a conclu, dites-vous.
Mais parce que c'est pas ça. La réalité judiciaire du dossier, ça n'est pas ça. Nous avons un individu qui, pendant 9 mois, de mars 2007 à janvier 2008, à côté de son travail officiel, utilisait les moyens qui lui étaient remis. Je suis en train de décrire, non pas ce que je pense, mais ce que la justice décrit dans son jugement. Après, on pense ce qu'on veut de la justice. Donc, ce que la justice lui reproche, c'est d'avoir développé une activité parallèle totalement occulte, totalement interdite, à l'insu de tout le monde, qu'il a mené d'abord à investir 30 milliards entre mars 2007 et juillet 2007. Heureusement, le marché s'est retourné parce qu'à un moment donné, il perdait 2 milliards d'euros. Ça, c'est important de le rappeler parce que j'entends beaucoup dire « tant qu'il gagnait, on le laissait faire, quand il a perdu, on l'a viré ». Ce n'est pas vrai. En juillet 2007, il perd 2 milliards d'euros. Puis, le marché se retourne, il a anticipé la crise des subprimes, sauf qu'entre le mois de mars où il l'anticipe et le moment où elle éclate vraiment fin juillet, il est en perte de 2 milliards d'euros. Puis, ça se retourne et il gagne, je ne sais plus si c'est 600 ou 800 millions. Il va reprendre une position de 30 milliards entre août et novembre, la dénouer et il gagnera au total 1,4 milliard. Tout ça, c'est de façon occulte, sans l'autorisation de son employeur. C'est une activité qui n'entrait pas dans son périmètre d'activité. En droit, ça a été qualifié d'abus de confiance, c'est-à-dire on vous remet pour exécuter votre travail des moyens et vous les utilisez à une autre finalité. Ça s'appelle de l'abus de confiance. Et puis, comme il a fait des faux emails, il a été aussi poursuivi et condamné pour faux et usage de faux et introduction frauduleuse de données dans un système automatisé parce que pour dissimuler ces opérations occultes non autorisées, il passait des opérations fictives. Voilà, c'est ça la réalité judiciaire du dossier. Alors ensuite, on peut s'en servir et il est passionnant, il sert à ça, pour faire des analyses politiques, pour raisonner sur la finance, pour faire autre chose et en tirer des leçons d'ordre général de réorganisation de la société et de la finance. Mais je crois qu'il faut prendre bien garde à ne pas mélanger les deux sujets.
Alors vous, Jean-Philippe Denis, par exemple, que valent votre expertise en management face au droit pénal? Qu'est-ce que vous avez dit à la barre en tant que témoin? Qu'est-ce que vous avez apporté et qu'est-ce que la justice en a fait?
Alors, si vous me permettez, je me suis permis d'amener deux petits exemplaires de la Revue française de gestion.
Dont vous êtes le rédacteur en chef.
Je suis rédacteur en chef, mais depuis 2013, juillet 2013. Des numéros qui datent de 2006 et 2007, qui sont très intéressants. Le premier s'appelle « Récit et management », parce que quand j'écoutais Madame Dufour, j'avais l'impression d'entendre le récit d'une affaire que j'ai tellement entendue, mais sauf que ce n'est pas l'affaire. Voilà, je vais y venir. Et le deuxième s'appelle « Légitimité, déviance, délit ». Qui était sorti en 2007 aussi. Donc, vous voyez, à l'époque, je n'étais pas du tout. J'étais déjà professeur, mais je n'étais pas rédacteur en chef de la Revue française de gestion.
Et donc, démonstration.
Je pense que dedans, il y a des concepts, et je vais vous les laisser, ils sortent de ma bibliothèque personnelle. Il y a des concepts qui peuvent être très utiles, comme celui de légitimité, par exemple. C'est un concept important, celui de légitimité. De quoi on parle ? C'est quoi cette affaire ? Cette affaire, c'est on a une banque qui, à partir du moment où il y a échec de l'OPA sur Paribas, 98, si ma mémoire est bonne, va développer une stratégie de survalorisation boursière. On appelle ça l'overvalued equity, c'est-à-dire que ça consiste à faire des choix qui vont être valorisés par les marchés financiers. Pourquoi elle fait ça ? Parce que c'est le prix de son indépendance. Et Daniel Bouton l'a assumé partout. C'est le prix de son indépendance. Donc il faut sans arrêt gérer son cours de bourse et essayer d'avoir la valeur boursière la plus importante. Ça l'a conduit à prendre des risques. Et parmi ces risques, il y a les subprimes. C'est ça la fameuse crise, non pas de 2008, comme l'a dit Madame Dufour, mais de 2007. Puisque la crise des subprimes va démarrer en juillet 2007 et officiellement même tout début août 2007. Là, ça nous amène sur un point très intéressant, Madame Dufour. C'est que là, il y a des dirigeants de la Société Générale qui vendent leurs actions en août 2007. Et il se trouve que ce sont des supérieurs de Jérôme Kerviel. Alors je ne vais pas citer leur nom, il suffit d'aller sur Google et de savoir qui a été condamné par la commission des sanctions pour délit d'initié, 21 août 2007, pour les ventes des actions. Et donc on veut nous faire croire, en 2007, sur toute cette période qu'a décrite Madame Dufour, que ces dirigeants-là, qui sont parfaitement au courant de tous les engagements de la banque, notamment vis-à-vis de l'assureur AIG, à partir duquel va partir la crise. Tout le monde pense que c'est Lehman qui a déclenché la crise. Non, c'est AIG le problème, c'est l'assureur le problème.
Alors, on ne peut malheureusement pas refaire tout le débat, rentrer dans tous les détails de ce procès, mais sur la question de la hiérarchie savait, la responsabilisation de la hiérarchie, on n'entend plus Jérôme Kerviel à ce propos. Aujourd'hui, il se dit victime d'une manipulation, il a changé son discours.
Oui. Non, mais c'est tout le débat. Et après, enfin, je veux dire, après, il faut une expertise. Et je crois que c'est ça qu'il demande aujourd'hui. C'est une expertise. Et la seule chose qui, à mon avis, est nécessaire, c'est une expertise comptable, c'est une expertise managériale, c'est une expertise organisationnelle de ce dossier. Parce que tant qu'on ne fera pas ça, ça a été fait sur le cas Enron par un auteur qui s'appelle Sayan Chatterjee, qui a publié en 2003, dans la revue Long Range Planning, une analyse du scandale stratégique organisationnel d'Enron. Je veux dire, c'est extrêmement intéressant. À chaque fois, on dit la banque savait-elle ou la banque ne savait-elle pas. C'est pas ça le sujet. C'est qui savait quoi, à quel moment. À quel moment on aurait pu l'arrêter et on ne l'a pas arrêté.
Olivier Dufour, vous qui avez assisté à la plupart des audiences de ce procès, voire quasiment toutes, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Jean-Philippe Denis ? Est-ce qu'il y a eu cette expertise-là ? Est-ce que des experts extérieurs ont été convoqués ?
Et c'est encore une fois, il faut à chaque fois séparer les sujets. Qu'il y ait eu des failles de contrôle interne, tout le monde le sait, puisque Société Générale a été condamnée à 4 millions d'euros d'amende. C'est une somme que tout le monde s'accorde à trouver ridicule. Il se trouve que malheureusement, le plafond à l'époque était à 5 millions et que depuis, il a été rehaussé à 100 millions. Vous posiez la question, quelles conséquences ? Par exemple, l'autorité de contrôle prudentiel maintenant prononce des amendes de 100 millions et non plus de maximum de 5 millions. Il y a eu une défaillance de contrôle interne, c'est évident, encore que... Avant de venir, j'ai regardé l'histoire de plusieurs rock traders, puisqu'il y en a une trentaine dans l'histoire, dont une dizaine qui ont perdu plus d'un milliard. Il y en a qu'on a attrapé 10 ou 11 ans après, et encore parce que les rétablissements faisaient faillite. Nick Leeson de la Barings, il a sévi pendant 3 ans avant qu'on s'en aperçoive. Jérôme Kerviel, il a sévi pendant 9 mois. Bon. Mais il est évident qu'il y a un problème de contrôle interne. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un problème de contrôle interne qu'il n'y a plus de l'autre côté un trader qui a commis des délits. Ce sont deux sujets. La défaillance de contrôle interne a permis ou empêché en tout cas que l'on le détecte plus tôt. Donc la banque est effectivement fautive de n'avoir pas surveillé correctement son trader, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas de police municipale dans une ville qu'il faut immédiatement dire c'est parce qu'il n'y a pas de police municipale qui a eu un vol et dire ça n'est pas la faute du voleur. S'il y avait eu des policiers, évidemment que le type n'aurait pas volé. Ce sont deux sujets qui sont liés, bien entendu. Mais on ne peut pas dire que le voleur n'aurait pas volé s'il y avait eu la police. Enfin, sinon, on met un gendarme derrière chaque individu. Voilà. Sur l'expertise, c'est-à-dire d'où sait-on que Jérôme Kerviel a perdu en réalité 6,3 milliards, dont on a déduit le 1,4 milliard qu'il avait gagné, parce qu'il est exact qu'il avait gagné 1,4 milliard au 31 décembre 2007 et que c'est en le dissimulant maladroitement qu'il a été attrapé. Ce n'est pas sur les 50 milliards des 1er janvier 2008, c'est dans la dissimulation maladroite de son gain, dont il dit tout le monde savait. Alors si tout le monde savait, pourquoi cachait-il une somme aussi magnifique qui pouvait éponger la perte sur les subprimes? Je pose la question. Donc sur l'expertise, effectivement il n'y a pas eu d'expertise, mais il y a eu des policiers de la brigade financière qui ont été perquisitionnés à la Société Générale. Il y a eu deux juges d'instruction, dont Renaud Van Ruymbeck. Il y a eu deux fois un mois de procès. Il y a eu des mètres cubes de documents analysés par des magistrats extrêmement aguerris et des parquetiers. Il n'y a pas eu d'expertise. Il n'y a pas eu effectivement un expert judiciaire désigné à qui on a dit « vérifier ». Mais c'est quand même pas rien, des policiers et des magistrats.
On a quand même beaucoup reproché à la justice de ne pas vouloir reconnaître son ignorance dans cette affaire, de s'être laissé perdre dans un monde où on parle warrants, click options, système Elliott. Alors moi-même, j'avoue que je ne connais pas tous ces mots. Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie de la banque que de complexifier le dossier? Je crois que c'est un adage qui est en cours chez les avocats. Olivier Dufour, si votre affaire est bonne, plaidez-la. Et si elle est mauvaise, compliquez-la. Jean-Philippe Denis.
C'est une excellente formule, c'est exactement ça. Je sais pas si vous connaissez les courroies de transmission, les joints de culasse sous le capot d'une voiture. Vous voyez, si on commence à vous demander d'expertiser, au grand public, d'expertiser ce qui se passe au moment de la défaillance d'un moteur automobile, notamment en Formule 1, il y a peu de chances que vous compreniez ce qui se passe réellement. Voilà,
mais ceci dit, est-ce que ceux qui soutiennent Jérôme Kerviel font cas de ce que rappelait Olivier Dufour, les condamnations de Jérôme Kerviel pour usage de faux, introduction de données informatiques frauduleuses, abus de confiance? Est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que ça fait partie du débat?
Évidemment que ça fait partie du débat, mais à nouveau, même Dufour dit qu'il faut séparer les sujets. Moi, je dis justement, le but des sciences de management, c'est de les rapprocher, les sujets. C'est d'essayer d'appréhender la complexité. À un moment donné, on est patron d'une organisation, on est mandataire social de cette organisation. On a des règles qui font qu'on est considéré comme l'architecte de l'organisation. On est rémunéré pour ça. On est patron. Frédéric Oudéa vient de percevoir un salaire, je crois, votant d'Assemblée Générale, de plus de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. C'est vous évoquiez le problème de l'opinion publique qui dit qu'il faudrait que le président de la République racie Jérôme Kerviel. On se dit, il se présente lui-même comme le lampiste, mais c'est juste évident. Je veux dire, quand on gagne plusieurs millions d'euros annuels, je ne vais pas vous rappeler la taxe à 75% qui a animé la campagne présidentielle. Quand on gagne plusieurs millions d'euros annuels, il est juste inconcevable qu'on puisse privatiser les bénéfices et ne plus être là quand il y a des pertes. C'est la fameuse formule, vous parliez du centre de recherche en gestion de l'école polytechnique, il y a eu un colloque il y a quelques mois du centre de recherche en gestion, et quelqu'un dans la salle a dit « Mais comment expliquer que dans la crise, tout le monde savait que tout le monde savait que tout le monde savait et qu'à la fin, personne n'est au courant ?»
Mais alors, voilà, le délinquant en col blanc, qui est-ce? C'est pas Jérôme Kerviel, c'est pas de la délinquance en col blanc, ça, par exemple, tel que
attention,
tel que
si vous poussez un cran plus loin, vous allez m'accuser de théorie du complot, ce que je n'ai pas dit, et ce que je crois la défense d'ailleurs n'a jamais dit.
Entend Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui au début de l'affaire disait, en parlant de Jérôme Kerviel, cet homme est un voleur, il est moins voleur que d'autres qui ne seront pas punis, mais c'est un voleur et qui aujourd'hui compare l'affaire, en tout cas compare son soutien à Jérôme Kerviel au soutien de Jean Jaurès à Dreyfus. On a l'impression que cette notion de délinquance en col blanc n'existe plus.
Alors, si vous me laissez une minute, il est où le paradoxe de l'affaire? Moi, je ne fais pas de la psychologie de prise unique. Il faut être clair, je suis un scientifique, je suis professeur des universités.
C'est le cas de ses invités,
voilà.
De tous les invités.
Donc, je ne fais
soir.
Pas de la psychologie, je ne me demande pas s'il est beau ou pas beau, s'il est gentil, pas gentil, si on cristallise ou si on ne cristallise pas. Je m'arrête à quelques faits. Un, il est le seul à avoir toujours reconnu ses torts. C'est-à-dire qu'il a dit « oui, j'ai déconné ». J'ai déconné, j'ai pris des engagements, j'ai pété les plombs. Il l'a écrit dans un ouvrage, ça s'appelle L'Engrenage, Mémoire d'un trader. Il est le seul à toujours avoir reconnu ses torts. En face, on a des gens qui gagnent des millions d'euros, qui font partie d'une élite, voilà, qui est une élite nomade, qui se promène dans des entreprises multinationales, qui ont des activités de par le monde, et ces élites-là ne sont pas inquiétées. Et c'est tout le sujet de la crise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi parle-t-on de crise? La crise, c'est quand nos certitudes s'effondrent. Nos certitudes, elles s'effondrent à partir du moment où on croyait quelque chose. D'accord. Et notamment des marchés financiers qui anticipaient des revenus futurs et qui se rendent compte à un moment donné qu'ils ne vont pas se réaliser. Vous prenez les cours de bourse sur la période 2007-2008, effectivement, ça s'effondre. Alors, que se passe-t-il ? La question que je pose, c'est quand on est dirigeant, quand on a des stock options, quand on touche un salaire pour être l'architecte d'une organisation, qu'on encaisse ses bénéfices et qu'ex post, on se rende compte qu'en fait, on ne va pas pouvoir tenir nos promesses. Que se passe-t-il ? Il se passe de la défiance, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est prends l'oseille et tire-toi. Ils ont pris l'oseille, ils se sont tirés, ils ne sont pas inquiétés. Et Kerviel, lui, est au milieu. Alors, est-ce qu'on l'a chargé la barque ? Est-ce que ça a été du dégazage de subprime par la Société Générale au passage, etc., etc. Vous comprenez bien qu'en plus, ça repart en appel. Donc, c'est sur ces sujets-là, on flirte très vite avec la diffamation. Ce sont des sujets compliqués. Madame Dufour, elle l'a écrit X fois sur son blog quand elle disait j'enquêtais sur l'affaire, mais en même temps, j'ai la banque derrière, donc je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, si je n'ai pas le droit de le faire. Moi-même, vous avez rappelé mon appartenance au Centre de recherche en gestion de l'École Polytechnique. C'est compliqué. Ce sont des sujets compliqués. Je veux dire, à un moment donné, il faut revenir sur le bon sens. Il y a des gens qui ont encaissé des bénéfices, qui étaient payés très cher pour concevoir des systèmes. C'est trop facile de dire que les systèmes de contrôle étaient défaillants. À chaque fois, c'est le grand argument des scandales depuis 1996 et le scandale du Crédit Lyonnais. Mais depuis, on a eu Enron, depuis, on a eu WorldCom, depuis, on a eu Parmalat. Enfin, on en a eu X. C'est trop facile.
Alors, laissons répondre Olivia Dufour et puis je me tournerai vers Judith Assouli. Dans vos blogs, vous l'exprimez explicitement que la Société Générale était derrière vous ?
Non, je l'ai pas lu. J'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que quand j'ai commencé ce livre, quand on est journaliste économique et qu'on fait une interview d'une banque, il faut passer par un service presse, attendre la réponse. Évidemment, la réponse n'est positive que si la banque considère qu'elle a un intérêt quelconque à communiquer. Ensuite, on a un entretien officiel avec trois personnes de la com et la personne avec qui on veut parler. Ensuite, pour faire des citations, il faut les envoyer en relecture avant et on s'expose à d'éventuelles corrections. Moi, j'ai considéré que si je disais à la Société Générale que j'allais enquêter sur cette affaire qui était extraordinairement sulfureuse à l'époque, je n'aurais aucune réponse ou bien des entretiens complètement absurdes avec des attachés de presse qui m'interdiraient d'écrire quoi que ce soit. En tout cas, c'est ce que je pensais. Donc, j'ai enquêté sans jamais prévenir la Société Générale. Et finalement, quand j'ai sorti le livre, je me suis aperçue que j'avais certainement surdimensionné ce que je vois maintenant chez certains défenseurs de Jérôme Kerviel, d'ailleurs, qui nous dressent l'image d'une banque, le complot des conjurés, j'ai vu, ou la bande des conjurés, bon, peu importe. Je crois qu'on diabolise les banques dans ce pays au point qu'on se retrouve dans des romans d'espionnage. C'est un peu au SS 117, parfois d'ailleurs, parce que ça devient un petit peu ridicule. Sur la phrase de Jérôme Kerviel consistant à l'aveu, la plupart, il faut se méfier du piège dialectique de cette phrase parce que Jérôme Kerviel est un communicant extrêmement habile. Donc quand il dit « je suis le seul à avouer », oui, bien sûr, il ne peut pas dire le contraire puisque de toute façon, il y a des listings avec ses prises de position. C'est un peu compliqué de dire « non, je n'ai pas investi 30 milliards ». Surtout qu'en plus, il dit « ma hiérarchie savait ». Donc il ne peut pas dire « ma hiérarchie savait quelque chose qu'il nierait avoir fait ». En réalité, il dit « j'avoue ». Mais je ne veux pas être le seul à payer parce que ma hiérarchie savait. Ça veut dire quoi ? Premier temps, j'avoue, oui, j'ai fait une faute, mais ma hiérarchie savait. Pour un juriste, ça veut dire donc qu'il n'y a pas d'abus de confiance, donc on lui demandait ou on tolérait de faire ça. Donc en réalité, il n'avoue rien du tout. C'est une petite pirouette dialectique. C'est juste ça.
De part et d'autre des parties, que ce soit de côté de Jérôme Kerviel ou de la Société Générale, à chaque fois, les équipes de communication sont quand même énormes et imposent un storytelling, comme on dit, et notamment même aussi du côté de Jérôme Kerviel. Est-ce que vous le connaissez, vous, Jean-Philippe Denis, l'avocat de Jérôme Kerviel, David Koubi ?
Oui, bien sûr.
Parce que certains disent que les soutiens de Jérôme Kerviel sont souvent des proches de David Koubi, de l'avocat de David Koubi. Il faut rappeler un peu qui il est, d'ailleurs. Les affaires qu'il a plaidées.
Écoutez, je ne suis pas l'attaché de presse de David Koubi. Excusez-moi, mais je ne suis
pas... C'était l'avocat Tristan Bannon. Voilà, il est assez connu médiatiquement.
Oui, il est assez connu médiatiquement. Moi, j'ai eu comme tout le monde... Je vais juste vous faire un petit témoignage personnel, si vous voulez, sur cette question. J'avais rencontré le conseil précédent de Jérôme Kerviel, qui était Olivier Metzner, pour lui attirer l'attention sur un point. J'avais dit, voilà, c'est pas possible que Jérôme Kerviel ne soit pas défendu sur ce point-là. On traite des banques, et ça c'est très pratique de traiter des banques, alors que le cas Kerviel porte sur la Société Générale. Et on traite des banques, c'est très pratique, on traite jamais de l'équipe de direction de la banque. Et c'est là, c'est ça, on met la hiérarchie. Non, attendez, il y a une équipe de direction, il y a des gens qui prennent des décisions qui ont des impacts sur l'ensemble de la société. Et l'entreprise, ce n'est pas la société. En droit, c'est, l'entreprise n'existe pas en droit. Non, l'entreprise n'existe pas. C'est la société de capitaux qui existe. C'est la société de capitaux qui existe. L'entreprise n'existe pas. Je ne polémique pas, mais vous lirez le très bon texte d'Alain Martinet dans la vie française de gestion sur ce thème. Et j'ai été coupé, je ne sais plus où j'en étais.
Vous parlez de...
Oui, et je disais, l'abus de confiance, parce que c'est le chef qui justifie tout, Confidence pour confidence, ça n'a jamais été évoqué nulle part. Rapport Bouton 2002 pour un meilleur gouvernement des entreprises cotées.
Daniel Bouton, ancien président.
Daniel Bouton, ancien président, directeur général de la Société Générale, mandaté pour élaborer un rapport sur les bonnes pratiques de gouvernance. Dans la lettre de mission du groupe de travail qu'il a présidé, sont évoquées l'efficience des systèmes de contrôle interne et externe. Alors, je veux bien qu'on traite d'abus de confiance, mais pas en général, pas l'abus de confiance des banques en général. Là, ça se passe dans une banque très particulière qui avait une stratégie de survalorisation boursière. Rapport Viéno 1, Viéno 2, Bouton. Et c'est précisément la banque dans laquelle le scandale va se produire.
Alors, je voudrais quand même qu'on donne la parole à Judith Assouli. Alors, je rappelle que vous êtes professeure en études financières affiliée à l'ESCP Europe et maître de conférences à Sciences Po. Judith Assouli, est-ce que Jérôme Kerviel a réussi à lui tout seul à incarner les mécanismes abstraits et opaques de la finance en se présentant comme un simple pion? Est-ce qu'aujourd'hui, on en est davantage conscient?
En fait, je pense qu'on peut dire qu'il y a un avant et après Kerviel dans les banques pour deux choses. Olivier Dufour a bien expliqué la différence dans cette affaire entre la personnalité de Kerviel, ses agissements, ce qui est mis devant la justice en matière de fraude, appelons-le comme ça, puisque cet abus de confiance a été qualifié de fraude par les autorités bancaires, et la question des dispositifs de contrôle. Alors, il y a des choses qui ont changé depuis, c'est notamment le fait que maintenant la fraude fait partie des risques que les responsables du contrôle permanent et de la déontologie, doivent surveiller et prévenir. Ça, c'est quelque chose qui a changé, comme après tout scandale, en fait, on voit des modifications de règles apparaître dans la finance. Et donc, là, l'affaire Kerviel n'échappe pas à cet exemple. Et puis, il y a des choses qui n'ont pas changé, sur lesquelles je voudrais un peu insister, et qui ont été présentés, mais pas de façon détaillée, qui dépendent effectivement de la responsabilité de la direction générale et que je vais nommer sous la bannière dispositif de contrôle. Parce qu'en fait, il y a un point important dans la finance qu'il faut expliquer, c'est le caractère que j'appelle endogène des dispositifs de contrôle. C'est-à-dire que on voit dans cet exemple que les dispositifs de contrôle n'ont pas été efficients. Alors, on ne va pas s'attarder maintenant sur les responsabilités des uns et des autres, mais ce qui est important de comprendre, c'est la façon dont c'est organisé. C'est-à-dire que depuis, et c'est le résultat de mesures politiques qui ont été développées depuis les années 80, c'est-à-dire des choix politiques, en fait, qui ont été faits en faveur d'une régulation qui doit être endogène. C'est-à-dire qu'on a des autorités de régulation qui émettent des règles, qui sont elles-mêmes soumises à consultation des professionnels de la finance, donc des banquiers, des traders, des responsables de déontologie. Et ces règles, ensuite, sont surveillées, appliquées à l'intérieur des établissements, avec des équipes, alors on les appelle les responsables de contrôle permanent, de contrôle des risques, des déontologues qui sont ensuite devenus des responsables de conformité, et qui passent, en fait, leur journée à former les opérationnels pour qu'ils connaissent les règles à appliquer, à écrire des procédures pour leur détailler ça, et ensuite à contrôler. Et effectivement, quand on étudie le jeu ou le respect de ces règles, comme je l'ai fait dans mon livre « Morale ou finance », on voit que ces règles ne sont pas toujours respectées et que souvent, pour faire du profit, on est à la limite. Parce qu'évidemment, ces règles, elles vont tout à fait en opposition et sont en tension avec les exigences de profit, puisque ça fait perdre du temps, puisqu'il faut demander un certain nombre d'autorisations ou de contrôle des limites avant de traiter. Et donc, bien sûr, ces règles sont en opposition avec les objectifs de profit. Et donc, tout le jeu consiste à être à la limite. Mais là, évidemment, dans l'exemple de Kerviel, comme dans l'exemple de tout scandale financier, on est passé au-delà de la limite, puisque comme la justice l'a tranché, il y a abus de confiance, il y a opération fictive. Olivia Dufour l'a très bien expliqué tout à l'heure. Et donc, autant l'audace et le risque sont valorisés sur les marchés financiers, sont valorisés au sein de la finance, autant la triche ne l'est pas du tout. Et donc, je crois que c'est important d'expliquer que dans cette affaire, on voit, comme dans d'autres scandales, mais à une échelle bien plus importante, le résultat aussi de mesures politiques des 30 dernières années.
Alors rapidement, une réaction, Olivia Dufour, Jean-Philippe Denis.
Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit et je voudrais rebondir sur le contrôle interne parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris après Kerviel et c'est dommage. Le problème, c'est que l'affaire est tellement médiatique et passionnelle et centrée sur la personnalité de Jérôme Kerviel qu'on passe à côté de l'essentiel des sujets. Il y a deux sujets pour moi qui sont absolument passionnants dans ce dossier. Le premier, c'est qu'on est en train de découvrir qu'un homme seul peut faire voler en éclats une boîte de 150 000 personnes. Ça, c'est un des grands risques contemporains qu'on va voir de plus en plus. On le voit dans la banque. On l'a vu avec le capitaine du Costa Concordia, qui était un navire apparemment insubmersible. Le capitaine veut faire coucou à un pote sur un rocher et fracasse le navire. C'est encore une fois une personne. Donc, ça veut dire qu'on a une fausse sensation de sécurité avec nos systèmes hyper sophistiqués. Le contrôle interne. Quand l'affaire Kerviel a éclaté, il s'est passé deux choses. La première, une mission d'inspection interne qui s'est appelée la mission Green, a été voir tous les contrôleurs qui avaient, parce qu'il a déclenché 70 ou 15 alertes en l'espace de 9 mois. Et on a été voir chacun des contrôleurs qui avaient traité l'alerte en lui demandant pourquoi cette alerte n'avait pas stoppé l'individu. Et l'une des choses les plus passionnantes, une jeune femme à qui Jérôme Kerviel avait donné une notice de produit en finnois. Je dis bien en finnois. On lui a dit, mademoiselle, avez-vous compris la réponse du trader quand vous lui avez dit « j'ai une alerte », il vous donne une notice en finnois. Parlez-vous le finnois ? Cette jeune femme répond non, mais la procédure de contrôle interne ne me demande pas de comprendre la réponse. Elle me demande de l'enregistrer. Et ensuite, on lui a dit, avez-vous prévenu votre hiérarchie ? Et elle répond non, le manuel ne me demande pas de prévenir ma hiérarchie. Ça veut dire que les systèmes, alors Société Générale a ensuite mis en place un système beaucoup plus draconien parce qu'elle était sous l'œil des médias, de ses autorités de contrôle, etc. Mais dans la même logique de déresponsabilisation des salariés à qui on demande des tâches absurdes. Et c'est pour ça que nos systèmes sont fragiles.
Ça, c'est du management, Jean-Philippe Denis, alors.
Ça, c'est surtout la thèse de Jacques Ellul sur le bluff technologique. Et Jacques Ellul avait cette formule que j'aime beaucoup, et je crois que il inspire beaucoup Olivia Dufour d'ailleurs, c'est que globalement tous les systèmes dans la société organisationnelle, industrielle, post-industrielle, technicienne, comme il l'affectionne, il dit tous ces systèmes sont gouvernés, sont là pour produire du profit. Donc si on ne traite pas du profit, et à qui profite le crime, Madame Dufour, c'est dans le bluff technologique, page 571.
Oui, c'est pas ce que je dis.
Si on ne traite pas à qui profite le crime, on passe à côté du sujet. Voilà, on passe à côté. Si on prend le rock trading, parce que ça c'est la grande formule, on ne se rend pas compte qu'on importe un imaginaire qui fait passer à côté du sujet. Juste un deuxième élément de réponse sur ce qu'a dit Madame Dufour sur... que je trouve très intéressant sur les contrôleurs internes et la déresponsabilisation par les systèmes de contrôle interne. Je trouve absolument fascinant le jugement, enfin le rendu de la Cour de cassation de mars, justement, qui renvoie en appel. Et c'est très exactement la critique qui est faite au juge. C'est-à-dire que le juge est souverain dans son jugement. En première instance, les juges d'appel sont souverains dans leur jugement. Or, parce que vous évoquiez une notice en finnois, mais je ne suis pas davantage convaincu que Mme Mireille Filippini ait compris la même notice en finnois quand elle l'a lue, je ne suis pas non plus sûr, contrairement à ce qu'elle a dit en appel, qu'elle comprenait parfaitement tout le vocabulaire des traders. Moi-même, je ne le comprends pas. Voilà, et j'en ai pas honte. Et le juge Pote avait dit la même chose. Je connais les warrants, les turbo-warrants, etc. Ça, on se fait avoir comme ça. Alors, et là, juste sur ce point-là, je pense que c'est très intéressant parce qu'il y a une responsabilité du jugement aussi que l'on émet sur une affaire. Et je maintiens que sans intégration de la problématique managériale, on ne peut pas avoir un regard sur cette affaire. Et on nourrit la défiance généralisée, y compris vis-à-vis de la justice.
Et c'est aussi la question du rapport entre ces banques et la justice, Judith Assouli. Ces banques qui ont, semble-t-il, atteint une telle puissance, un tel poids économique, financier, qu'elles en seraient presque devenues intouchables. On dit « too big to fail » en parlant de ces paquebots financiers. On peut dire aussi « too big to sue », trop grosse pour être jugée.
Alors, je crois qu'il faut bien comprendre, en fait, la responsabilité de l'État et des pouvoirs publics dans la... constitution des dispositifs de contrôle. Olivia Dufour a pris l'exemple tout à l'heure du finnois et je voulais revenir là-dessus pour répondre à votre question. Parce qu'en fait, on est effectivement passé au début des années 80 d'un esprit déontologique avec des mises en place de règles dont le contenu était à la fois basé sur un souci moral et l'application était beaucoup plus dans l'esprit, à quelque chose qu'on appelle de la conformité. Et quand on parle de conformité, on parle avant tout de respect de la forme. Donc ça ne m'étonne pas, moi, cet exemple de papier en finnois qui est classé dans les dossiers pour protéger comme ça le salarié qui applique la règle. Et effectivement, on a un intérêt commun entre les États, les autorités de régulation, les contrôleurs et les opérationnels de la finance à garder le système tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est vrai que cette affaire, comme d'autres d'ailleurs, a certes fait apparaître de nouvelles règles et de nouvelles exigences de contrôle, mais ne modifie en rien l'organisation du système et de son contrôle. Donc on est toujours dans un système financier dans lequel il y a une endogénéisation du contrôle avec un impératif et un besoin commun pour tous les acteurs, y compris l'État, de le maintenir comme ça. Donc effectivement, maintenir les banques telles qu'elles le sont, ce n'est pas seulement un souci économique, c'est aussi un intérêt politique et nécessaire pour les États.
Mais c'est aussi une exception française, Olivia Dufour, que de désigner un trader seul responsable de ces pertes de leur banque. En France, il y a aussi l'exemple de Boris Picano-Natchi, voilà, pour la Caisse nationale des caisses d'épargne, qui a été condamné fin janvier à une amende de 315 millions d'euros. C'est le montant des pertes qu'il avait provoquées en misant sur les marchés des produits dérivés. Lui, d'ailleurs, n'a pas cherché à nier sa responsabilité, contrairement à Jérôme Kerviel. Mais aux États-Unis, Morgan Stanley, JP Morgan sont des banques qui ont été touchés aussi par ce genre d'affaires et qui se sont excusés publiquement, qui ont évidemment dû payer aussi, mettre la main au portefeuille et qui n'ont pas reçu d'argent du gouvernement.
Oui, alors les excuses publiques, c'est la culture américaine. Qu'on ne fasse pas des excuses publiques en France, c'est parce qu'on a une différence de culture. Ce qui me paraît très spécifique à la France, c'est l'enthousiasme romantique qu'inspire un trader qui a occasionné des pertes aussi importantes. Encore une fois, pour peu que l'on ait confiance en la justice de son pays et que l'on considère qu'elle a bien identifié la responsabilité du l'auteur des délits.
C'est peut-être ce qui la vous banque, c'est sépare d'ailleurs avec M. Denis. Attendez.
Donc, cette vision, cet enthousiasme romantique me paraît très spécifique à la France. J'ai encore une fois regardé les autres affaires de Rogue Trader qui ont fait perdre plus d'un milliard à leurs établissements.
Les Rogue Traders sont ces traders ripoux.
Voilà,
quoi.
Ils ont tous été condamnés à la prison parce qu'on dit un petit peu le contraire en ce moment en France. On dit « Oh, c'est scandaleux ». Oui, c'est discutable parce que des délinquants en col blanc en prison qui font de la prison ferme en France, il n'y en a pas eu des masses, ça c'est certain. Il y en a même eu très peu. Il y a Bernard Tapie, il y a de mémoire Loïc Le Floch-Prigent. On doit les compter sur les doigts des deux mains au grand maximum. Donc en ce sens, on peut effectivement questionner le fait de mettre Jérôme Kerviel en prison et surtout de l'y maintenir alors qu'il n'est pas dangereux, ça c'est certain. Maintenant, cet enthousiasme romantique qui consiste à voir un Robin des Bois dans un garçon qui a mis en péril une banque de 150 000 personnes me laisse un peu réservée. Je n'ai rien contre lui, mais je trouve cet enthousiasme un peu bizarre.
Vous êtes un enthousiaste romantique, Jean-Philippe Denis ?
Non, il n'y a pas que ça comme particularité française, hein. Dans l'histoire de France, il y a eu d'autres particularités qui ne sont pas forcément glorieuses. Là, on est complètement à côté du sujet. Je suis désolé, mais on est complètement à côté du sujet. Alors moi, je ne m'intéresse pas à l'opinion publique, savoir si c'est romantique de s'identifier à Jérôme Kerviel, etc.
Bah, c'est intéressant de voir qu'il y a un soutien public massif.
Il y a un soutien, mais après, les raisons de ce soutien. Moi, ce que je note surtout, c'est qu'une particularité française, c'est l'omerta. Il y a des sujets dont on ne peut pas parler. Et une des choses dont on ne peut pas parler, c'est effectivement les mandats croisés dans les conseils d'administration des banques, ce que font les banques, ce que les décisions qu'elles prennent. Combien de frais de conseil, tiens, au fait, de frais de conseil en stratégie, en contrôle interne pendant toutes ces années? Combien, quel montant? Tout ça, on ne peut pas en parler. Et donc, s'il y a aussi cette particularité française-là, ça avait été très mal interprété, je crois, la présence de Tristan Bannon au procès de Jérôme Kerviel en appel. Effectivement, l'affaire DSK a montré aussi qu'il pouvait y avoir une omerta à la française, y compris dans le monde médiatique.
En tout cas, on l'aura au moins évoqué ce soir. Merci à vous, Jean-Philippe Denis, Olivia Dufour. On peut vous lire sur vos blogs respectifs, La Plume d'Alyosha et Le Journal d'un Université. On met en ligne les liens sur notre site internet. Enquête sur un séisme financier, c'est ce que vous avez écrit, Jean-Philippe Denis, aux éditions
Erol. Excusez-moi, je m'embrouille les pinceaux. Kerviel, l'oligarchie des plutocrates et la démocratie des vains imbéciles. Voilà, c'est votre livre, Jean-Philippe Denis. Judith Assouli, votre ouvrage Morale ou Finance a été publié en 2013 au PUF. Et je vous remercie également d'avoir été avec nous par téléphone. Le grain à moudre d'été, c'est fini pour ce soir. On vous retrouve demain à 18h15. Bonne soirée à tous.